J'avais pour appui un excellent père, mais j'avais pour éternel, pour implacable ennemi, une mère dénaturée. Il ne fut pas possible que j'allasse chez mes parents. J'y aurais causé trop de troubles. Mon père me mit avec l'épouse d'un artiste qui l'occupait et à laquelle il paya ma pension. Je respirais enfin dans cet asile. Il y avait plus de 4 ans que je ne m'étais couché tranquille, à l'heure à laquelle se couchent les honnêtes gens de ma condition, qu'à chaque fois, en me mettant au lit, je frissonnais des horreurs qui m'y attendaient, que je n'avais été sûr de revoir le matin, vivante ou non estropiée. Pour la première fois depuis 4 ans, je me couchais en paix, dans une tranquillité profonde que rien ne pouvait troubler. Oh, quelle jouissance délicieuse que celle de se retrouver maîtresse de soi-même après un long esclavage. Le lendemain, les égards, les complaisances, les attentions me furent prodiguées. Moi, la veille encore la dernière des esclaves, je me vis servi. Mon déjeuner se trouva préparé en me levant. Les larmes m'en vinrent aux yeux. « Cessez, cessez, dis-je à la femme et au mari, de me prodiguer ces attentions. Parlez-moi seulement avec douceur et je serai trop heureuse. » Ils me regardaient avec surprise. « Nous ne pouvons faire moins pour notre pensionnaire, pour la fille d'un homme que nous respectons infiniment et qui nous occupe depuis plus de 6 à 7 ans. » Je pleurais et ne pus manger. On s'informa, mais je gardais le silence. Un instant après, je dis « C'est de joie que je pleure. J'ai cependant une peine cruelle, c'est de lui abandonner un enfant de 4 ans qu'il va perdre par la mauvaise éducation qu'il lui donnera. Je n'ai pas voulu lui laisser la volière parce qu'un jour il se fit un jeu de tordre le cou à mes tourterelles. Je n'ai pas voulu lui laisser son petit chien et je lui laisse l'enfant. Mais j'y suis forcé, ne voulant jamais le revoir. » Si j'avais emmené son fils, c'était lui donner occasion de me poursuivre. J'ai préféré le laisser. Si ses parents pensent bien, ils le connaissent, ils lui ôteront son fils. Voilà tout ce que je me suis permis de dire. Je fis donner le chien le jour même et, quant à la volière, elle était ailleurs. Je la fis redemander quelques jours après et mon père la renvoya chez Moresquin. C'était un enfantillage que de m'être occupé d'un chien et de quelques oiseaux, souvent relevés depuis par Moresquin, mais ce n'était pas un crime, ce n'était pas même une faute. C'était le 22 juillet au soir que j'étais sorti de la maison, ou plutôt de l'enfer de Moresquin. Et le 23, avant midi, mon père reçut une lettre de cet homme, stupide, comme il était accoutumé d'en écrire, mais en même temps parfaitement tranquillisante. Mon père me communiqua cette lettre dès qu'il l'eut reçue et me dit ses propres paroles. « Vous voyez que vous pouvez être tranquille. Moresquin, loin de souhaiter de vous ravoir, est charmé du parti que vous avez pris. J'en suis charmé aussi. J'aime infiniment mieux que ce méchant homme nous laisse en repos. Heureusement qu'après sa lettre, il ne saurait avoir le front de vous redemander. » Je pensais comme mon père. Qui n'aurait eu la même idée? Ceux qui connaissaient encore mieux que nous la bassesse, la déraison, la folie, l'esprit maniaque du vil Moresquin. Je vécus dans la sécurité, ravi de me voir méprisé de l'être que je méprisais bien davantage encore. Il faut dire ici que, jusqu'à cette lettre, ma mère m'avait toujours blâmé dans le querelle avec Moresquin. Mais après la lettre, elle envoya lui faire des reproches par ma sœur cadette, jeune personne charmante, du plus grand mérite, surtout d'une angélique douceur, qualité précieuse, hélas, que j'avais aussi, et que Moresquin se vanta du coup de poing dont je portais les marques hideuses. Je lui ai donné un bon coup de poing toujours, ce furent ses propres expressions. Ma sœur le quitta indignée, et de ce moment, ma mère cria vengeance contre Moresquin, soit qu'elle pensât réellement comme elle parlait, soit qu'elle voulût se ménager les moyens de le servir. On verra dans peu les raisons que j'ai de la soupçonner d'avoir le second motif. car c'est une énigme presque inexplicable que sa conduite. Je ne sais si mon père fit mal ou bien, mais il n'alla point instruire de ma séparation d'avec Moresquin, le protecteur chez lequel il avait procuré une place à cet homme. Son motif était la délicatesse. Il aurait fallu faire connaître le monstre et lui nuire. Moresquin avait l'enfant avec lui, et il fallait lui laisser les moyens de subsister. D'ailleurs, on le croyait tranquille, content, charmé de la séparation. Que je le connaissais mal encore! Il était au comble de la rage. Mon père n'avait pas répondu à la lettre. Tout ce qui partait de la plume de Moresquin le suffoquait. Quand il voyait le style de cet homme vil, que j'achevais journellement de lui faire connaître, il avait des nausées. Et quand il entendait à quelles infamies sa fille, son sang, avait été exposé, il entrait dans les accès de fureur difficiles à modérer. Ainsi, tandis que mon père balançait sur ce qu'il avait à faire, Moresquin agissait, car il ne manquait jamais d'activité pour faire le mal. Hé, que faisait-il l'abominable ? Il diffamait, il traînait dans la boue l'infortuné qu'il ne pouvait plus maltraiter. Il semait contre elle les calomnies les plus atroces, les plus invraisemblables. Mais que lui importait ? A-t-il jamais tâché de colorer ses mauvais traitements par l'apparence de la raison ? Pourquoi aurait-il cherché à mettre de la vraisemblance dans ses calomnies ? Au lieu de remplir son devoir, il ne s'occupait qu'à voir des valets d'écurie, des espions, des bandits de tout état, pour s'en faire des témoins, des sorties de sa femme qu'on ne voyait jamais, des parties qu'elle faisait avec Fromentel. Il avait eu la folie de présumer que je pourrais être chez ce jeune homme avec lequel je n'avais jamais eu de relation particulière et que je n'estimais pas. Il avait été m'y chercher le troisième jour, et il y trouva la volière avec les oiseaux que j'avais eu la faiblesse d'emporter. Il faut en convenir, ne voulant pas laisser ces pauvres petites créatures exposées à la fureur de Moresquin, j'avais imaginé d'en faire présent à Madame Fromentel, la belle-sœur, la même chez laquelle nous avions fait une partie si désagréable. Je savais qu'elle les aimait beaucoup, surtout un lino qui venait d'elle originairement. Je lui avais écrit de les faire prendre et, en attendant, la voisine chez laquelle je les avais mis les avait portés chez Fromentel parce que c'était chez ce jeune homme que le commissionnaire devait les prendre. Je ne dissimulerai pas que c'était une imprudence que d'emporter les oiseaux et surtout d'en disposer de façon qu'ils séjournassent chez Fromentel. Mais l'innocence ne voit pas les conséquences d'une action indifférente. Dès que Moresquin, en pénétrant chez Fromentel, qui sûrement lui laissa voir la volière par malice, par jactance, pour le faire bisquer enfin, dès que Moresquin, dis-je, eut vu la volière chez l'homme qu'il voulait faire passer pour mon amant, ce fut un beau texte pour lui. Le monstre recueillit alors le triste fruit des précautions qu'il avait prises depuis près d'un an. Quoique sot jusqu'à la stupidité, quoique grossièrement scélérat, ce monstre réussit auprès de son sous-protecteur. Il ourdit ainsi sa trame. Il lui persuada que j'avais un galant, que la haine de mon père était si forte contre lui, Moresquin, qu'il avait été charmé que j'eusse un galant pour le déshonorer, lui, mari. Que par cette raison, mon père me servait dans ma folle passion pour Fromentel. Que c'était afin que je m'y livrasse en toute sécurité qu'il m'avait ôté de chez lui et placé dans une chambre isolée, ignorée de tout le monde. Il ajouta par-dessus toutes ces inepties d'autres monstres de son imagination déréglée, que je l'avais volé, que je lui emportais pour plus de 15 000 livres d'effets. Il n'avait pas le sou. Il avait tout mis en gage, jusqu'à ma montre, l'être vil et bas. Je n'avais emporté que les linges et hardes à mon usage. Encore n'avais-je pas tout, et ce qui est resté ne m'a jamais été remis. Ce fut cet absurde tissu que crut le sous-protecteur. Ce secrétaire était prévenu contre moi en faveur d'un scélérat auquel mon père avait cru donner un surveillant avant que l'homme seul digne de foi se fût expliqué. Je m'arrête sur cette inconcevable prévention qui, sans doute, a des fondements secrets. mais il était nécessaire d'en dire un mot pour entendre ce qui va suivre et pour comprendre comment un homme aussi respectable que mon père, aussi digne de toute la considération du sous-protecteur, en a été joué, trompé, desservi. Nous étions tranquilles cependant. Mon père, sûr du consentement que Moresca donnait à notre séparation d'après la lettre qu'il avait de lui, ne songeait qu'à me procurer des moyens de subsistance. Si je demeurais caché dans la maison où mon père m'avait mise, si j'évitais de sortir, d'aller dîner ou souper en ville avec mes hôtes, c'était par décence. C'est qu'en effet, j'étais dans le deuil et l'affliction qui, l'un et l'autre, devaient durer autant que ma vie. Je ne craignais pas Moresquin, qui s'était applaudi de ma fuite parce que je ruinais sa maison. Il est vrai que j'avais refusé de la faire par les moyens qu'on a vus. Je ne m'informais ni de ses discours, ni de ses actions. Je n'avais pas encore écrit à ma tante, et je vivais dans la retraite la plus absolue, heureuse, trop, je le répète, d'être tranquille enfin, de voir arriver le soir sans trembler, de passer la nuit sans éprouver les infamies et les plus horribles obscénités, de voir luire en m'éveillant un jour pur et sans nuages. Mais j'appris que ma tante était inquiète de moi. Quoique le fût la première cause de mon malheur, elle avait eu des bontés depuis et je lui avais pardonné. Je lui écrivis donc. Elle me répondit. Et depuis ce moment, l'ombre de tranquillité dont j'avais joui fut troublée. Juste ciel, que d'horreurs, mais de basses et viles horreurs, de ces mensonges sots, plats, ridicules, qui ne font que pitié aux gens d'esprit. Hélas, ils persuadent les sots, et les sots composent les trois quarts du monde. Ma tante commençait par me recommander de ne point aller du côté du port Saint-Paul parce que Moresquin, à cette occasion, se permettrait les plus horribles discours relativement à Fromentel. Il assurait que j'allais coucher avec cet homme et que la dame chez laquelle j'étais en pension nous apportait le matin notre déjeuner au lit. Que le perruquier qui accommodait Fromentel m'avait vu dans le lit de ce jeune homme. Qu'un monsieur qui sortait pour monter dans son équipage m'avait également vu ainsi que des domestiques. Au travers des murs, apparemment, observait ma tante, et qu'il m'avait dit « Courage, madame Moresquin !» Qu'il avait pour lui, dans l'arsenal, 25 témoins qui m'avaient vu dans le lit de Fromentel, ainsi que le monsieur montant dans son équipage. Et il est à observer que si le carrosse avait doublé la hauteur actuelle et qu'il eût été au niveau du premier étage, encore aurait-il fallu que Fromentel demeurât sur le devant, etc., etc. Car pour voir une femme coucher avec un homme de la rue dans un équipage, il faut bien des choses. Or, Fromentel demeurait sur un derrière. Son appartement n'a aucune vue, pas le plus petit jour sur la voie publique. Il n'est pas nécessaire d'entrer chez lui pour s'en convaincre. Que j'étais affiché aux portes du jardin pour qu'on ne me laissât point entrer, étant déclaré « garce et la putain de l'endroit ». Que Fromentel, d'après la conviction, avait été jugé par la justice de l'arsenal et mis en prison pour être puni après l'épreuve. On voit comment la mauvaise tête de Moresquin arrangeait tout cela. Ma tante ajoutait que mes hardes qui étaient restées entre les mains de la couturière avaient été saisies par Moresquin. Ensuite, elle s'écriait « Eh bien, une infinité de gens disposés à croire le mal sans preuve admettent tout cela. » Et votre couturière en est la trompette. Je lui ai fait demander le volume de Molière. Il n'a pas voulu le rendre. Il est passé ce matin et il m'a dit, avec sa brutalité ordinaire, qu'est-ce que j'envoyais faire chez lui, que c'était pour l'espionner, et que je n'envoyasse pas davantage, que vous étiez la putain de Fromentel depuis longtemps. J'ai répondu ce que la prudence m'a suggéré. Il s'est emporté comme un furieux. Et m'a dit que nous étions tous. Voilà quelles sont les scènes que j'ai, plutôt deux fois qu'une, chaque jour. Ne sortez que le moins que vous pourrez. Il est comme un enragé, tremblant, écumant de la bouche. Enfin, il me fait peur. Je ne voudrais pas être seul avec lui comme vous y avez été. Ne sortez pas seul surtout. S'il vous rencontrait, vous passeriez un mauvais quart d'heure et toute la vanille d'un monde qu'il ferait amasser autour de vous. Il dit à tout le monde que votre papa est votre maquereau. Jugez de l'infamie de cet homme. J'aurai pour remplir une rame de papier de toutes les horreurs qu'il débite. Je ne détaillerai pas sa conduite. Je vais me contenter à présent de passer aux traits principaux. Après avoir débité de cette manière ce que ma tante vient de m'écrire, avoir brouillé mon père avec son sous-protecteur, multiplié les calomnies, il arriva que le jour de la dernière procession des esclaves rachetés, je vins un moment à la fenêtre. Moresca se trouvait par hasard sur la porte d'un café. Il m'aperçut et monta. Moresca frappa doucement, et au moment où je courais ouvrir la porte, seulement poussé, il se présenta. Mes jambes tremblèrent, je pâlis, je n'eus pas la force de dire un mot. « Ah, ma fille, dit le monstre, que je suis charmé de te revoir. Rentre avec moi, j'oublie tout et je veux te rendre heureuse. » J'aurais dû m'écrier, mais intimidé, effrayé, hors de moi, je n'eus pas la force de dire autre chose que ces mots « Ne faites pas de bruit si mon père arrivait !» Je ne savais ce que je disais. Il s'assit, me fit asseoir et me parlait avec une feinte douceur quand la maîtresse de la maison rentra. Sa surprise de me voir avec un inconnu redoubla au nom de mon mari qu'il se donna. Elle le vit doux et aussi poli qu'un homme de son espèce pouvait l'être. Instruite comme elle l'était de ses calomnies, elle ne pouvait en croire ses oreilles ni ses yeux. Cependant, comme Moresca affectait de parler raison, elle l'écouta. Enfin, mon père se fit entendre. Et Moresca fut assez hardi pour l'attendre. Il fallait être un homme comme lui pour avoir cette effronterie après tout ce qu'il avait dit contre M. Saxancourt et contre moi. Mais l'inconséquence est le caractère de Moresca. La surprise et la colère de mon père, en voyant mon bourreau, mon calomniateur et le sien, furent sans bornes. Il le chassa. Le vil Moresca, qui frémissait de rage, se voyant devant mon hôte et mon hôtesse, se mit à genoux. Mais M. Saxancourt le connaissait trop pour en être touché. Il le repoussa, le fit sortir et lui montra toute l'horreur qu'il lui inspirait. Cependant, le lendemain, Moresca revint avec mon fils. Mais, par une barbarie sans exemple et digne de lui, ce monstre avait stylé l'enfant, qui, dès qu'il me vit, s'écria que ce n'était pas là sa maman, mais une dame. « Je ne veux point de la dame !» J'avouerai que ce trait fut cruel et que j'y fus très sensible. Je ne pus embrasser l'enfant qui se débattait et voulait m'égratigner. Je remontai en pleurs, pénétré d'une nouvelle horreur pour le malheureux qui m'enlevait tout ce qu'il pouvait m'enlever. Je ne parlerai pas de la conduite de Moresca à son bureau, de la manière indirecte dont il était enhardi, par la basse jalousie du premier secrétaire, à tourmenter un homme estimable comme M. Saxancourt, dont les talents humiliaient le sous-protecteur, jaloux de la manière dont un homme de mérite était reçu par le judicieux M. Olaus Magnus. J'en viendrai tout d'un coup à un trait de noirceur digne de son auteur méprisable. Moresca fit écrire par une femme une lettre d'amour à Fromentel. Il la fit surprendre sous la porte de l'allée et il alla ensuite la montrer à tout le monde, entre autres à son sous-protecteur. Triomphant de sa fourberie et de la créance qu'elle obtenait de ceux qui voulaient la croire, du sous-protecteur Mégas, du parasite Lapropre, du commis Goupillon et des gens de cet acabit, il eut l'audace d'écrire à mon père qu'il avait enfin une preuve complète contre moi. Il annonçait la lettre qu'il avait déjà montrée à Mégas dans les cafés à tous les hommes vils de sa connaissance. Ce fut un coup terrible pour mon père qui courut chez M. Olaus Magnus. Ce fut là que Mégas, dépositaire indécent de la prétendue lettre, la fit voir à mon père, dont la réponse fut s'il voyait une lettre d'écriture de femme, mais qu'il n'oserait assurer qu'elle fût de la mienne. Il lut, et alors il certifia que je ne l'avais pas écrite. Voilà comment a été conçue cette lettre, dictée à quelque malheureuse par Moresca. Mon cher ami, je t'envoie un ruban pour serre-tête. Il est consacré comme tu le désires, tu m'entends. Je suis bien affligé depuis que je ne t'ai vu la dernière fois que nous couchâmes ensemble. Juge, si j'allais être grosse, sur qui ça tomberait avec un mari comme le tien qui n'a eu que trop de raisons de nous soupçonner. Car enfin, mon ami, tu n'as cessé de jouir de moi depuis le premier jour que nous allâmes nous promener au jardin du roi le jour de Saint-Denis. Bonjour, bonne œuvre, et ce que je t'accordais si facilement que tu en fus étonné, la jouissance de ma personne. Et tu sais qu'il s'en aperçut, je t'ai tout conté. Oh, comme il t'accusait! Mais je cacherai tout, et puis je vais tâcher d'engager un autre. Le reste ne peut s'écrire. Monsieur Saxoncourt fit observer à Mégas qu'une femme ne pouvait écrire une lettre pareille. Mais le secrétaire était trop borné pour le sentir. Mon père voulut garder la lettre comme il en avait le droit. Le secrétaire s'y opposa. Monsieur Saxoncourt, indigné, la remit, mais comme en dépôt. Il feignit avec Moresquin et, par une vertueuse adresse, il parvint à faire brûler cette lettre scandaleuse au grand regret de Mégas. Après que Moresquin eut brûlé la lettre composée par lui-même, il pressa mon père d'effectuer notre réunion. Monsieur Saxoncourt lui répondait toujours qu'il ne pouvait plus me contraindre, que c'était à lui de mériter par une conduite sage et qu'il lui procura de l'avancement de la part de Monsieur Olaus Magnus que je prisse confiance en lui. Mais Moresquin, incapable de bonne conduite, n'ayant que de la bassesse, de l'obscénité, de la noirceur, de la paresse, de la gourmandise, l'amour du jeu, etc., sentait que cette condition était impossible. Il pressait mon père de plus en plus. Monsieur Saxoncourt, vaincu par son importunité, se détermina enfin à tracer les conditions d'un accommodement tel qu'on les a vues dans La femme infidèle, et il les envoya par ma sœur cadette, afin de rendre le message plus agréable pour Moresquin. Il faut ici faire le portrait de ma sœur. C'est une jeune personne d'une taille bien proportionnée, qui est assez jolie, mais qui a surtout, et dans un degré sans égal, un air de candeur aimable, une naïveté touchante, qui cadre avec le son de sa voix douce et qui remue le cœur. Elle est passablement grande, fluette, marchant mollement. Enfin, tout intéresse en elle, et il n'est pas d'âme féroce qu'elle ne touchât. Ce portrait n'est point flatté. Tous ceux qui connaissent Marion Saxoncourt savent qu'il est plutôt au-dessous de la vérité. Mon père envoyait d'abord ma sœur, le soir, au moment où Moresquin devait être rentré. Il ne l'était pas, heureusement. En revenant, elle fit demander Moresquin au café où il allait ordinairement. On dit à la personne qui l'accompagnait qu'il n'était pas là. On s'informa de ce qu'on lui voulait, Moresquin mettant le public au fait de toutes ses affaires. C'est mademoiselle sa belle-sœur qui lui porte un papier à signer. On sourit. Qu'elle ne s'expose pas à y aller le soir, ni même le jour. On rapporta ce discours à mon père qui n'en fit que rire, quoiqu'il connût Moresquin. Et le lendemain, à 9 heures, il renvoyait sa fille cadette avec une femme porter le papier à signer. Elle le trouva Moresquin prêt à partir pour son bureau. Elle lui présenta le papier. Moresquin le lut et dit qu'il ne pouvait pas signer qu'il n'eût consulté M. Mégas. Marion lui observa qu'elle avait ordre de rapporter le papier en cas de non-signature, que c'était l'ordre express de son père. Et elle le reprenait. Moresquin, furieux, le lui arracha de force, la renversa, la fit tomber et lui donna des coups de pied dans le côté. La gouvernante de Moresquin et la femme qui accompagnait ma sœur se jetèrent sur lui et suspendirent ses mauvais traitements. Cependant, Marion était évanouie. Il fallut la secourir. Les deux femmes accablèrent Moresquin de reproches. Ce misérable sentit son tort impardonnable et il demanda pardon. Il voulut faire déjeuner ma sœur, qui refusa, mais qui lui dit qu'elle lui pardonnait. Ce fut pendant le temps qu'elle se remettait que ce malheureux dit, en riant affreusement, qu'il nierait tout ce qui venait de se passer. Il ajouta des infamies contre M. Saxancourt, qu'il annonça qu'il nierait également. Marion, pénétrée d'horreur et non encore remise, voulut sortir de chez cet abominable homme. Elle alla chez une voisine et se tut. Mais on entendait la gouvernante de Moresquin lui dire « Vous êtes un fou, un homme qui avait perdu la tête et qui cherchait à vous faire pendre. Quoi ? Vous maltraitez votre belle-sœur ? Mais c'est sans exemple !» Moresquin ricanait ou répondait les obscénités. À son retour chez nous, ma sœur ne dit autre chose sinon que Moresquin avait gardé le papier pour le montrer à M. Mégas. Ce fut le lendemain qu'obligée de se faire soigner, elle dit une partie de la vérité. M. Saxancourt fut très fâché qu'on ne l'eût pas mise dans le cas de rendre une plainte nécessaire. Il avait raison, cette plainte eût prévenu d'autres excès dont je vais parler. Depuis cette scène, il ne fut plus question de raccommodement et ce fut l'avantage réel que nous en tirâmes. La conduite de Moresquin envers ma sœur dévoila ses dispositions secrètes et confirma les bruits horribles qu'il répandait lui-même qu'il ne voulait m'avoir que 3 nuits pour me renvoyer chez mon père les bras cassés, les côtes enfoncées et la honteuse maladie dans le corps. En effet, il avait pris ses précautions avant la scène qui va suivre, et son linge, son régime, d'accord avec ses discours, ont convaincu sa gouvernante que ce monstre s'était rendu malade pour avoir le barbare et coupable plaisir de me causer la mort.